Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
Oui, ce sont des propositions de loi, une proposition de loi qui est arrivée au cœur de l'été avec des élus de La République En Marche. En février dernier, c'est des élus Les Républicains, et là, les élus de La République En Marche qui disent, bah, il faut peut-être réintroduire l'alcool dans les stades pour que les clubs aient des recettes. Regardez, les clubs amateurs, eux, y ont droit, et puis on est dans l'hypocrisie, c'est ce qu'ils disent dans les loges, on peut boire, et puis il y a 10 matchs par an, on peut vendre de l'alcool. Donc ça a été le débat dans les GG, bonnes ou mauvaises idées. On va écouter ce qu'en disait Marianne.
On sait très bien les débordements qu'il peut y avoir, alors beaucoup plus souvent au foot qu'au rugby, mais ça c'est clair, c'est quand même aussi le foot qu'a inventé les hooligans, il ne faut pas l'oublier. Hein. Pourquoi est-ce que dans les matchs amateurs, ils ont le droit, enfin, c'est tout simplement...
C'est pas le foot qui a inventé les hooligans.
Pardon ?
Non.
Ah non, mais si. Mais alors là, mais j'attends le GG et vous, et fermement, non. Je l'affirme.
Si tu voulais ton GG et vous, tu l'as. Philippe, bonjour.
Bonjour les Ganguels.
Allez-y Marianne, vous écoutez.
Bonjour Marianne.
Bonjour Philippe.
Bonjour Maxime, bonjour Elina.
Salut Philippe.
Bonjour Alain.
Bonjour.
Et voilà, Marianne, les hooligans n'ont pas été inventés par le foot, hein, pas du tout. Les hooligans existent depuis très 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 longtemps. Et voilà, je suis supporter du Paris Saint-Germain depuis 1978. Je vais au parc tout le temps. Je fais tous les stades de France, tous les stades d'Europe. Et je peux vous dire que l'alcool dans les stades, ça n'engendre pas davantage de violence. C'est faux. Je suis aussi un supporter de rugby. J'ai habité dans les Landes et j'allais voir donc les matchs de rugby. Et ça se pochetronne autant que.
Ou plus
au rugby,
même.
Qu'au foot. Voilà. Et donc. Il n'y a pas davantage de violence, Marianne, dans les stades de foot que dans les stades de rugby. Absolument pas. Au Parc des Princes, l'alcool a été... Monsieur Leproux a révoqué tous les supporters qui étaient le Binks, et c'est tant mieux. Et aujourd'hui, lorsque l'on rentre au parc, on ne peut pas rentrer avec de l'alcool. Et avant, Alain connaît les bars qu'il y a autour du parc. Souvent, les supporters vont boire un coup. Et je peux vous garantir que les personnes, lorsque l'on sort du stade, il n'y a pas plus de personnes qui sont alcoolisées que ça. Je vous le garantis.
Non mais
voilà.
Philippe...
Et c'est bien dommage que... Alors, au niveau santé, je suis d'accord que c'est...
Voilà. Ah bah, on est au moins d'accord sur un point, Philippe. Ça, voilà, déjà, c'est bien. Mais tout à l'heure, on avait un auditeur qui nous a appelé en nous expliquant que justement, il avait vraiment envie d'aller avec son enfant de 4 ans et que si il recommence à y avoir de l'alcool, il a peur des débordements. Donc, il ne faut pas oublier le côté familial. Vous êtes supporter du PSG, un ancien supporter. Effectivement, vous avez commencé au parc. Sauf erreur de ma part, la tribune Boulogne, hein, c'est bien ça. Hein, on en parle de la tribune Boulogne, vous voulez qu'on en discute, hein. Ben, oui, mais c'est... Non, mais quand on me dit le sport où il y a les hooligans, sport où il y a les hooligans, c'est le football. Voilà.
Ouais, mais donc, hooligans, ça veut dire voyous en anglais,
oui,
si tu veux.
Oui, je sais bien.
Donc,
non, mais je sais bien. Mais
c'était
tu
des
sais
groupes
c'est...
qui étaient des groupes de voyous qui aimaient la baston.
On en a fait, d'accord.
Et qui ont trouvé le foot, si tu veux, derrière, pour continuer les affrontements.
Et qui étaient greffés sur des équipes qu'ils encourageaient, qu'ils soutenaient. Voilà. Donc, ils sont greffés dessus et ils en ont fait un argument de baston, effectivement, voire de meurtre. Dans les cas les plus extrêmes, puisque c'est arrivé, malheureusement. Bon, voilà, donc, la tribune Boulogne, vous vous en souvenez, vous savez ce que c'est, donc je pense que vous connaissez la violence dans le sport. Quand vous dites au rugby, ça boit peut-être plus qu'au foot, effectivement, la tradition de troisième mi-temps, est, en général, elle est effectivement liée au rugby, elle n'est pas liée au football, mais l'esprit n'est pas le même. Je regrette d'ailleurs aujourd'hui que l'esprit du rugby parfois glisse un peu vers l'esprit du foot sur certains supporters, effectivement, dans les stades. Quand j'entends siffler, moi, quand il y a un joueur qui va taper et que tu as le stade qui siffle, moi, je n'avais jamais vu ça avant au rugby. Donc, c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Bon. Parenthèse refermée, je maintiens quand même que il y a un problème de sécurité, il y a un problème de santé publique et que donc ça serait mieux de ne pas réouvrir la vente d'alcool dans les stades.
Voilà Philippe.
Ok. Bon.
Merci Philippe d'avoir été avec nous. Je vous envoie un t-shirt DGG et je vous dis là aussi à bientôt pour de nouvelles discussions dans un instant. Patrick, nous serons du côté de l'Aveyron. Tiens, je vais le saluer tout de suite Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Dites-moi d'ores et déjà, avant qu'on fasse la pause, avec de quoi voulez-vous reparler, avec qui?
Alors, c'était avec les jeunes étudiants, et c'était surtout sur l'ubérisation.
Avec Maxime Niedo sur l'ubérisation, voilà le prochain sujet de discussion. On était parti de l'appel à la grève et au boycott de Deliveroo par une partie des livreurs eux-mêmes. Restez avec les grandes gueules. Patrick, je vous donne la parole dans quelques instants pour la suite du GG, vous.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
J'ai entendu à la radio ce matin.
RMC.
Un bruit étrange court dans Paris.
Dis-moi pas que c'est pas vrai.
Sans blague.
À ton understand.
9h.
Qu'est-ce qu'il y a?
Midi.
Mais pourquoi tu m'écoutes pas?
Qu'est-ce qu'il dit?
Pourquoi tu m'écoutes jamais? Qu'est-ce que c'est que ça?
Salut le mec, service.
À la Marshall.
Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages?
Les grandes gueules.
Dans cette nature magnifique et sauvage, où la vie animale fait sa loi, il existe pourtant une règle simple.
Pouvoir grand dans la vie.
Les grandes gueules, RMC, RMC Story, c'est le GG et vous, c'est le moment de reprendre la parole avec les grandes gueules et Maxime, donc avec Patrick, à propos de l'ubérisation, on parlait de l'appel au boycott des Deliveroo lancé par une partie des livreurs. Pareil. On écoute Maxime et il en parle avec Patrick.
Moi, je veux bien qu'on continue à se plaindre, et ça a commencé, la vérité, de l'ubérisation de la société, ouais, avec les fameux Uber. Mais pourquoi il y a eu les Uber? Mais parce que les taxis. Au début, moi aussi, j'ai eu la soi-disant conscience sociale et sociétale de Marianne Soubré. Sauf que quand je m'aperçois, par exemple, que de temps en temps, mon train est ricrac, que je prends le Uber pour faire la gare ici, que je paye à peu près 7€, et que le taxi me prend 20€, qui met pas la bonne musique, qui me parle pas, qui ouvre pas les fenêtres, que limite il fume dans la bagnole,
là,
moi, ça me pose problème.
Là.
Si, parce que c'est l'ubérisation de la société.
Alors,
et donc,
là,
y a
oui.
Toujours...
Patrick, bonjour. Rebonjour.
Oui.
Allez-y.
Rebonjour, oui.
Maxime, vous écoutez.
Voilà,
bonjour, Patrick.
J'étais un peu en colère tout à l'heure, puisque bon, j'ai entendu Maxime. Bon, moi, j'ai 60 ans. Lui, il est un peu plus jeune, je crois, que moi. et donc.
Quelques années.
J'ai travaillé sur Paris il y a 30 ans. Et il m'est arrivé d'utiliser le taxi. Bon, moi, je suis du Sud, c'est vrai. Alors, je pense que dans les gens du Sud, on est peut-être un peu plus ouvert dans la communication. J'ai jamais eu de problème dans les taxis et dans la communication. J'ai jamais eu de soucis. Les chauffeurs, bon, personnellement, j'avais pas de soucis. Mais par contre, sur l'ubérisation, là où je voudrais en venir, c'est que j'ai eu l'occasion d'aller à Roland-Garros avec ma femme, qui a un fauteuil roulant. Mm-hmm. Je sors de Roland-Garros, on essaye de prendre à la tête de station de taxi un taxi. Là, on se trouve avec un véhicule devant nous, qui était stationné en tête de station, qui n'était pas un taxi, qui était sans rien, un monsieur qui était stationné. Et le problème, c'est que cet homme, il était là en attente soi-disant de commandes. Je ne sais pas, parce que il ne pouvait pas nous prendre. Et donc, nous, on est obligés d'attendre la suite des taxis.
Oui.
Il fallait manœuvrer. Le problème, c'est que ces gens-là, en définitive, sont en train, en ubérisant la société, ils sortent complètement des clous. Alors, vous êtes à la sortie de Roland-Garros, vous avez 50 policiers qui sont de l'autre côté, à l'opposé, pour faire la sécurité. Le gars, il est en tête de station, il m'embête avec ma femme pour descendre le trottoir avec un anti-bascule. Si vous savez ce que c'est que quelqu'un qui a un anti-bascule, donc ça veut dire qu'il faut démonter l'anti-bascule pour descendre le trottoir, pour rentrer dans le taxi qui arrive derrière, et lequel taxi n'ose même pas dire quoi que ce soit à ce véhicule qui est ubérisé. C'est quoi? C'est de la folie. Vous êtes jeune, mais il faut que vous vous voyiez. Il faut que vous compreniez que vous êtes en train de creuser votre tombe.
Non, c'est votre tombe,
vous creusez là. Cette société part complètement en carafe. Plus rien n'est respecté. Il y a 30 ans, on prenait un taxi, on allait à la tête de station,
ouais.
On se présentait, chacun faisait sa file, faisait sa queue. Bon, des fois, il y avait des gens qui voulaient évidemment passer avant l'autre, toujours, ça s'est toujours passé. Mais au moins, il y avait des règles.
Oui, mais cher Patrick, vous confirmez un peu ce que je dis, c'est-à-dire que les taxis ça pose un peu problème quand même s'il faut pas les attaquer. J'attaque pas les taxis, j'explique juste que parfois le service.
J'ai bien entendu que tout à l'heure vous avez dit quelques fois. Donc j'ai bien entendu. Ça c'est vrai. Mais le fait d'ubériser tout ça. Vous prenez, on parlait des livraisons au repas. Vous connaissez Montpellier?
Oui, un peu.
La place de la Comédie.
Ouais.
Eh bien, faites l'expérience. Moi, je suis en fauteuil roulant et ma femme dans la descente pour aller vers la place de la Comédie. Le nombre de vélos qui arrivent à fond la caisse.
Ah oui, d'accord, mais ça...
Qui deviennent dangereux.
Oui, non, mais ça d'accord, mais c'est le même...
Oui, mais oui, mais vous voyez tout ce que ça engendre.
Oui, mais ça, attendez, il faut mettre... Pardon, Patrick, mais faut juste que j'arrive à argumenter, parce que ça d'accord, me paraît intéressant comme débat, mais...
Ah d'accord, allez-y.
Non, non, mais écoutez, honnêtement, vous avez raison sur la désorganisation que ça peut amener, sur l'effet de société que ça peut amener, une sorte de société en mutation qui a d'ailleurs du mal à se trouver, mais il y a plusieurs choses, si vous me permettez de développer très rapidement. Un, la société d'ubérisation qu'on voit arriver, ça fait déjà années qu'on la voit arriver, sauf que comme d'habitude en France, on est en retard. On n'a pas su anticiper. Les syndicats n'ont pas su préparer, justement, l'adaptation de ce monde-là à ce nouveau mode de vie. Ensuite, pourquoi le succès de l'ubérisation? Le problème, outre, justement, les salaires, le développement, etc., c'est que c'est quand même beaucoup moins cher que beaucoup de services. Si on prend d'autres modèles, Uber, beaucoup moins cher que les taxis, Airbnb, beaucoup moins cher que les hôtels, beaucoup plus pratique, beaucoup moins discipliné, mais beaucoup plus apte à se retrouver entre potes, à payer moins cher, apte dans plusieurs destinations, facilement, plus accessible. Donc vous voyez, c'est un tout qui fait que l'offre est malheureusement beaucoup plus alléchante que ce qui se fait actuellement dans notre pays, mais ça engendre des difficultés que vous avez parfaitement évoquées. Ensuite, enfin, si je peux me permettre, oui, moi, jeune, je l'utilise parce que j'aime ça, c'est moins cher, c'est plus accessible, il y a un côté plus fun, et pour les taxis...
Mais je comprends.
Et évidemment, pour les taxis, vous avez raison, mais je dis pas que tous les taxis sont des salauds, loin de là, mais beaucoup proposent un service qui, à mon humble avis, qui n'est pas celui de tout le monde, mais qui propose un service beaucoup plus dérisoire que le prix qu'ils proposent, c'est-à-dire qu'au prix où je paye la course, j'ai le temps de me faire 5-6 voitures, 5-6 trajets en Uber en fonction des trajets.
Ou autre en VTC.
Donc il y a une adéquation,
en fait,
c'est ça. Donc il y a une certaine adéquation entre le prix qu'on paye le service et la prestation qui est décevante.
Moi, je n'ai jamais utilisé Uber, donc je vous parlais de cette explication-là, je vous parlais moi, de l'ubérisation en général.
Oui, c'est ça, l'ubérisation est dangereuse, mais elle est le résultat, malheureusement, certes, certainement de travers mauvais pour notre société, mais d'un manque d'adaptation des gouvernements, de nos lois qui sont un patras et un foutoir sans nom, et enfin, du manque d'adaptation des syndicats qui sont peanuts sur ça, qui sont là pour les cheminots, ce qui est très bien, mais peanuts sur les nouveaux enjeux de notre société.
Après, où tu as raison, c'est qu'il faut s'adapter par rapport à un nouveau mode qui est en train d'arriver. Mais il ne faut pas tout lâcher non plus parce que ce nouveau mode est en train d'arriver. Si tu veux, et je reprends l'exemple tout à l'heure, c'était, je crois, Malik.
Oui.
Qui nous disait qu'il faisait chauffeur, il était chauffeur poids lourd, et puis l'après-midi, quand il avait du temps, il était Deliveroo, et que grâce, si tu veux, à Deliveroo,
il y a aussi des avantages.
Il arrivait du coup à partir en vacances, mais du coup, ça pointe aussi le problème de salaire pour lui, parce que j'imagine mal que l'avenir de la société soit qu'on ait tous deux ou trois boulots pour arriver à partir en vacances ou avoir des droits sociaux au bout. Donc, si tu veux, voilà. Aujourd'hui, il y a une révolution technologique qui provoque de nouveaux métiers, un nouveau mode de salariat. Il faut arriver à trouver le bon équilibre de manière à ce que tout le monde y trouve son compte aussi dans cette affaire. Après, il y a Patrick, il a eu affaire à des gens qui n'étaient pas professionnels. C'est un problème de professionnalisme et de l'individu, si tu veux, qui faisait mal sa profession, mal son job.
Tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a une minorité qui fait mal son taf qu'on doit empêcher la majorité de pouvoir l'utiliser ou l'exercer.
On enchaîne, dernier GG, vous, c'est Marina, la copine Marina qui est infirmière dans les Bouches-du-Rhône, pour reparler de la mort accidentelle du maire de Signes, même si le chauffeur de la camionnette a été mis en examen pour homicide involontaire, je crois. Donc on posait la question de savoir aujourd'hui les maires, les élus, ils se retrouvaient confrontés à l'incivisme et autres. Et on va réécouter Marianne Soubré, elle en parle avec Marina.
Aujourd'hui, les gens qui exercent des fonctions en tant que maire ne veulent même plus se représenter, et ça prouve la dégradation en fait de leurs conditions. Il est évident que le maire n'est plus aujourd'hui une autorité considérée comme respectable, alors qu'il est dépositaire chez lui, dans sa commune, de l'autorité publique.
Marina, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous, Marina?
Ça va très très bien.
On vous connaît, Marina. Bonjour.
Oui. Bonjour.
Alors.
Voilà. Moi, j'ai deux remarques à faire. Si les maires sont déconsidérés, je ne crois pas forcément que ce soit par les administrés. Je pense que le nombre de plus faible d'abstention dans ces élections municipales prouve justement que c'est une des élections qui intéresse le plus les Français. Donc de dire que c'est la population qui ne respecte pas les maires, je trouve que c'est un peu facile et c'est occulter le vrai souci, le vrai problème de non-reconnaissance des maires. On va dire que ça vient plutôt d'en haut que d'en bas, d'abord. Et ensuite, je voudrais dire que hors ce qui se passe, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, on est en train d'enterrer ce pauvre homme, pour l'instant, on parle de quelque chose qui a été accidentel. et essayer de tirer des conjectures, je trouve que c'est pas très pas très joli aujourd'hui. Et dire hein, d'un autre côté que oh là là, les Français se rebellent contre l'autorité, il y a de l'incivisme, etc. Bienvenue dans ce monde. Voilà, c'est-à-dire que ça fait des dizaines d'années que les gamins subissent l'incivilité dans les écoles. Il a fallu que les professeurs soient en ligne de mire pour qu'on s'en émeuve. Les médecins, les infirmières, les pompiers, la police, alors les maires, excusez-moi, hein, j'ai rien contre les maires, mais les maires, ce sont des Français comme les autres. Et effectivement, ils ont affaire à l'incivilité qui est générale dans notre société. Ce n'est pas forcément un problème politique, c'est peut-être un problème d'éducation, un problème de résidus, de vieilles croyances qui fait qu'on fait ce qu'on veut, tant que ça, on n'enlève rien à personne, c'est pas grave. Voilà, donc je trouve que restreindre le problème, essayer de mettre en place cette petite musique, de dire, oh là là, on touche aux maires, on touche à la République, les permanence vandalisée, c'est tout le même système. Je trouve que ça, c'est pas très honnête.
Alors, Marianne.
Oui, Marina, mais vous savez, je suis franchement pas éloignée de ce que vous dites. Donc, en fait, moi, ça me fait sourire parce que on croirait que vous nous avez jamais entendu, et particulièrement moi, sur l'autorité justement des professeurs qui étaient remises en question, sur l'autorité de la police, encore pire sur les pompiers ou sur les médecins qui se font caillasser quand ils essayent de porter secours. Donc, si vous voulez, moi, je suis pas à dire parce que ce sont les maires, c'est le pire, la pire chose que l'on fasse à la démocratie. Je pense qu'au contraire, en fait, on est tous les degrés, les uns après les autres, tombent. Et celui-là est encore un degré qui est tombé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le maire, justement, par sa proximité, etc., il était peut-être un peu préservé. Après que vous disiez que il y a aussi une pression qui vient d'en haut, là, mais pareil, Marina, vous avez mille fois raison.
Oui, donc c'est pour ça que j'étais très étonnée de vous entendre dire ça, parce que faire de quelque chose qui, pour l'instant, encore une fois, là,
je
pour l'instant, Marina, quelque chose qui est accidentel, le fait que le maire ait eu un accident,
Marina,
et de dire que c'est le maire qui a été visé.
Non, c'est pas ce qu'on a dit, Marina. Regardez.
Excusez-moi, c'est pas ce que vous avez dit, mais c'est un peu la tonalité de ce qu'on a entendu.
Non, Marina, en fait, qu'est-ce que ça met en lumière aujourd'hui? Voilà. D'abord, c'est un acte d'incivisme. C'est-à-dire que c'est une camionnette qui...
De décharger les gradins.
Parti de là. Le maire, ensuite, a été tué dans un accident, selon ce que dira l'enquête, mais dans un accident. Du coup, des maires disent, mais voyez, cet accident est arrivé à cause de l'incivisme, et on a, du coup, ouvert le registre. Qu'est-ce qu'un maire aujourd'hui? Et du coup, qu'est-ce qu'un maire aujourd'hui? C'est d'aller soi-même régler ou tenter de régler les problèmes d'incivilité. Être un maire, c'est se retrouver confronté à la colère des citoyens. Et je donnais les chiffres aujourd'hui. En augmentation tous les ans, de maires qui sont victimes d'agressions physiques, de violences verbales et autres. Et donc, ça a poussé de la réflexion aujourd'hui, savoir pourquoi est-ce que les élus se retrouvent confrontés à cet incivisme global. C'était ça, la chaîne de la réflexion, Marina.
Les élus sont confrontés à cet incivisme global parce qu'ils sont dans notre pays qui connaît un incivisme global.
C'est vrai.
Après, encore une fois, ce que je vous reproche et ce que j'ai entendu, alors à moins que j'ai une allu, c'est d'avoir fait une corrélation entre le fait de ces incivilités-là et le fait que les maires ne veulent pas se représenter.
Quand on écoute
les maires, et les maires des petits villages, parce que là on est en train de parler de...
Oui, bien sûr.
Les maires des petits villages ne se représentent pas à cause de ces incivilités. Les maires de ces petits villages se représentent parce qu'on les prive des moyens.
C'est ce que j'allais dire.
Marina, c'est Elina, j'allais vous dire.
C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Et quand je vois Monsieur Macron, le regard qu'il a sur les maires, moi je comprends que les maires, ils aient plus envie de se présenter.
Merci Marina d'avoir terminé nos discussions. On se retrouvera bientôt et merci pour votre fidélité au GG, aux Grandes Gueules. Lundi, Jacques Maillot, Didier Giraud et Barbara Lefebvre. Et dans le grand oral des GG, nous serons avec David Cormand, c'est le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Tiens, ce sera intéressant d'entendre Cormand sur le rapport du GIEC, mais surtout de voir si finalement il n'arrive pas à se rapprocher aujourd'hui Europe Écologie Les Verts et notre camarade agriculteur Didier Giraud. Ça sera un dialogue, à mon avis, intense. Passez un bon week-end, soyez prudents sur les routes, que vous partiez ou que vous rentriez. Et puis rendez-vous lundi à 9h, ça me paraît être une bonne idée, ça.
RMC, les grandes gueules.